Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un prédateur, Vincent Bolloré. Surnommé le petit prince du cash flow dans les années 80, il a vite gagné un autre surnom les décennies suivantes, le smiling killer, le tueur au sourire. Car sous son air de ne pas y toucher, ce patron français est sans état d'âme. En quelques décennies en effet, Vincent Bolloré, héritier d'une dynastie de papetiers en quasi-faillite, a rebâti un empire industriel vaste, puissant. De la gestion des ports d'Afrique jusqu'aux batteries électriques, de l'huile de palme aux jeux vidéo, son groupe est partout. Homme de réseau, furieusement à droite, ami d'éducateurs africains, recruteur d'anciens grands flics, Bolloré est un homme tout puissant. Désormais à la tête de Vivendi, il s'est taillé un empire médiatique où il impose sa loi. Canal+, C8, CNews, Europa, Paris Match, Journal du Dimanche. Maintenant, il pense à la succession et prévoit de céder les rênes à ses quatre enfants le 17 février prochain. L'entreprise réinvente parfois la monarchie de descendance. Mais avant cela, Citizen Bolloré compte peser sur la campagne présidentielle en soutenant le candidat Éric Zemmour qui défend ses idées furieusement à droite. Notre invité aujourd'hui, Ariane Chemin, grand reporter au Monde, qui a publié une longue enquête sur l'homme d'affaires avec sa consoeur Raphaël Bacquet. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Toulmont.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgado.
Mai 2007, Paris, Champs-Élysées. Tout juste élu président de la République, Nicolas Sarkozy se rend au Fouquet's, célèbre brasserie parisienne, pour une fête tout ce qu'on fait de plus bling-bling. Et devenu président, il va traîner cette fière idée comme un boulet et jusqu'au bout. Il faut dire que ce soir-là, le bon peuple désargenté, dont une partie avait voté pour lui, assiste à un défilé de milliardaires et de vedettes du showbiz engagés à droite, Johnny le premier, sous l'œil d'une noria de caméras complices et fascinés. En tout cas, le candidat chantre du travailler plus pour gagner plus peut savourer champagne et caviar avec ses amis les PDG. Bernard Arnault, président de LVMH, Martin Bouygues, patron de Bouygues et de TF1, Albert Frère, première fortune de Belgique, Johnny donc, Arthur, l'animateur télé, ou encore l'ex-cycliste Richard Virenc, qui n'était pas là à l'insu de son plein gré. Alors on trinque, parce que la droite reste au pouvoir, et c'est bon pour les affaires. Mais en vérité, et dans l'intimité, Nicolas Sarkozy va mal. Son sourire n'est que de façade. Parce que sa femme, Cécilia, veut le quitter. D'ailleurs, on ne la voit pas ce soir-là au Fouquet's. La souffrance du nouveau président est réelle. Champagne amer. Vincent Bolloré, l'un des invités de Marc, voit bien le malaise de son ami et lui lance en aparté « Si vous voulez le Paloma pour vous reposer quelques jours. » Le Paloma, c'est le nom du yacht de l'homme d'affaires. En ce moment, il mouille au large des côtes maltaises, un des plus beaux endroits de la Méditerranée. Pour s'y rendre, aucun problème. Vincent Bolloré peut lui prêter son jet privé. Nicolas Sarkozy accepte après tout. Il faut bien reprendre son souffle après la campagne et avant l'Élysée. Mais avant, direction Place de la Concorde pour fêter la victoire. Et finalement, Cécilia le rejoint devant le Fouquet's. Il faut bien sauver les apparences.
La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Lundi 7 mai, le couple Sarkozy, qui prévoyait quelques jours de repos très paisible en Corse, s'envole pour un voyage aux frais de la princesse. Parce que le milliardaire Bolloré paye tout, le jet privé, l'équipage, et bien sûr le yacht de 60 mètres de long, il ne manquerait plus qu'il lui réclame une taxe de séjour. Très vite, la nouvelle fait le tour des rédactions parisiennes. Le couple présidentiel est très vite repéré lors de sa croisière de Malte jusqu'à la Sicile. Les journalistes louent des avions et des hélicoptères pour photographier le yacht. et la polémique enfle en quelques jours. Après le Phuket, voilà les vacances de luxe payées par un milliardaire. Nicolas Sarkozy les interrompt seulement deux jours plus tard et il s'en explique devant les journalistes après un footing entouré de ses gardes du corps.
Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois.
C'est donc en 2007 que la plupart des Français découvrent le nom de Vincent Bolloré et de sa puissance. Nicolas Sarkozy le cite toujours dans le quartier gagnant des milliardaires. Pressé de rendre service au président, l'intéressé ne s'attendait peut-être pas à se retrouver au cœur de la première grande polémique du quinquennat. Et bien sûr, la gauche s'en donne à cœur joie. Pourtant, c'est un ami socialiste qui va lui donner la solution pour faire taire tout le monde. Il s'appelle Bernard Poignant et il livre ce conseil à Bolloré. Vincent, tu n'as qu'à dire que ta famille a une longue tradition d'accueil des politiques. Tiens, parle de Léon Blum. C'est bien ça, Léon Blum. Très vite, Bolloré publie un communiqué de presse dans lequel il se dit, je le cite, « honoré d'avoir reçu M. Sarkozy et sa famille avant qu'il ne soit président ». Ajoutant, c'est d'ailleurs une tradition dans la famille Bolloré. Elle a eu l'occasion de recevoir Léon Blum plusieurs semaines dans son manoir, oui, à son retour de captivité. Sauf que la famille de Blum proteste et s'insurge. Bolloré, lui, sort une preuve, comme l'explique le JT de France 3 Brest.
Vincent Bolloré a dû sortir une photo de Léon Blum et de son oncle Guénaël Bolloré. Celui-ci, dans ses mémoires parallèles, a expliqué que Léon Blum, à peine sorti du camp de Buchenwald, avait été mis au repos par son médecin, hors de tout contact politique chez des gens, dit-il, qui n'étaient pas des salopards. C'est ainsi que Blum fut accueilli par Guénaël Bolloré, résistant à 17 ans et compagnon de la Libération. Cet épisode fit grand bruit à l'époque chez les ouvriers du moulin à papier. Le leader du Front Populaire était en résidence chez le patron, écrit malicieusement Guénaël Bolloré, qui s'est éteint en 2002.
Léon Blum, Nicolas Sarkozy, Mohamed V, la liste des... Mohamed VI, la liste des hommes d'État accueillis par les Bolloré est longue. Dans les années 60, par exemple, le couple Pompidou se rend régulièrement sur le voilier de la famille à Saint-Tropez. Et Michel Bolloré, le père de Vincent, confie ses travaux de reliure à une certaine Danielle Mitterrand. Dans son hôtel particulier, près du Bois de Boulogne, ce même Michel reçoit tout le gratin parisien et s'entretient régulièrement avec Valéry Giscard d'Estaing. Vincent Bolloré naît donc entouré d'hommes puissants à Paris et il passe ses vacances en Bretagne dans les odeurs des papeteries familiales. Car la fortune des Bolloré s'est faite dans le papier et notamment pour les cigarettes. Les fumeurs de clopes roulées connaissent bien la marque OCB. Eh bien, c'est Bolloré. Et contrairement à la légende, l'entreprise n'a jamais appartenu à Jean-Marie Le Pen. En tout cas, dans le Finistère, les Bolloré, c'est l'équivalent des Michelin, des Peugeot ou des Rothschild. Edmond est d'ailleurs un ami de la famille. Et c'est tout naturellement que le jeune Vincent devient le directeur adjoint de la compagnie financière Rothschild en 1975. À la fin des années 70, l'entreprise familiale Bolloré est au bord de la faillite. Une partie de la société est donc revendue. Sur Bretagne Actualité, le 9 novembre 1976, la question de l'avenir d'OCB est posée.
La société des papeteries Bolloré, dont la fondation remonte à 1822, va-t-elle disparaître? C'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Pour faire face à la fermeture de certains marchés, ce groupe qui disposait d'un véritable monopole international dans le domaine du papier à cigarettes avant la Seconde Guerre mondiale, a dû se reconvertir dans les papiers minces et spéciaux comme ceux destinés aux condensateurs électriques, aux supports carbone et aux sachets à thé.
Finalement, c'est Vincent et son frère, Michel Yves, qui reprennent la société pour 2 francs symboliques en 1981. À 29 ans, le jeune banquier part alors en Bretagne, à Ergué-Gabéric, près de Quimper, sur les terres de ses ancêtres, pour aller parler aux salariés de ses papeteries. Il vient leur annoncer de bien mauvaises nouvelles. L'abandon du papier, et puis... plus délicat encore, une baisse des salaires. Cet épisode fait partie de la légende du jeune patron qui se dit breton, mais qui est d'abord un membre de la grande bourgeoisie parisienne. Scolarité effectuée par exemple au prestigieux lycée Janson-Sailly dans le 16e arrondissement. Revenons à la légende du dialogue social. Vincent Bolloré, physique hollywoodien, aurait alors grimpé sur des palettes de bois pour faire un discours du style « Je veux investir et sauver les emplois ». Selon un ancien délégué CGT, devenu plus tard régisseur du château de Bolloré, tous les salariés auraient été séduits dans le charisme du jeune patron. Selon une autre version, il s'agissait tout simplement de chantage du style « Si vous voulez garder votre emploi, baissez vos salaires ». Une chose est certaine, les papeteries doivent se réinventer, car les activités classiques ne fonctionnent plus, comme l'explique Bolloré au micro de France Culture en 1989.
Il y a eu à nouveau une période de peine dans la fin des années 70, en 80, quand effectivement, donc non seulement les gens fumaient moins, donc on vendait moins de papier à cigarettes, la photocopieuse commençait dans les bureaux à remplacer les papiers carbone, donc on vendait moins de papier carbone, et puis la baisse de la pratique religieuse a fait que les gens n'utilisaient plus des micelles. Donc effectivement, là, il y a une période de peine qui a été particulièrement dure, puisque c'est vrai que les résultats étaient très mauvais, et que l'actionnaire majoritaire de l'époque, qui était un groupe financier, avait décidé d'arrêter cette entreprise.
Vincent Bolloré renomme son entreprise Bolloré Technologies, et se lance dans les films plastiques et les sachets à thé, un marché porteur en ce début d'année 80. Il introduit son entreprise en bourse en 85 et réussit une prise de guerre décisive l'année après. Grâce à son carnet d'adresses et ses relations politiques, il rachète en effet au groupe Suez la SCAC, Société Commerciale d'Affrètement et de Combustible. Sous ce nom, c'est la logistique, le fret et le continent africain qui s'ouvrent au groupe Bolloré. Le début de la diversification pour son empire, à ce moment-là encore embryonnaire. Mais quand on sait l'importance que va prendre l'Afrique dans les bénéfices du groupe, 90-86 est une année charnière. D'ailleurs, c'est en cette même année que Bolloré devient la coqueluche du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, le syndicat des patrons. Oui, on adore ce jeune PDG de 33 ans qui aurait mis la CGT dans sa poche pour faire repartir la petite entreprise familiale. Et l'intéressé se laisse séduire. Plus encore, il est mis en orbite médiatique sur TF1 et sur Antenne 2, où il continue de façonner sa légende et où il se prête à des petits jeux de com.
Je vous ai réservé une surprise, un petit test qui s'impose pour un Bolloré. Vous avez un paquet de papier à cigarette, vous le prenez et vous m'enroulez une.
Bolloré passe l'examen de la cigarette roulée sans encombre. Et l'année d'après, c'est la consécration par ses pairs. Il reçoit des mains de Jacques Chirac, alors Premier ministre, le titre de manager de l'année attribué par les lecteurs du Nouvel Économiste. Pur produit du capitalisme français, guidé par Antoine Bernheim, l'une des mains invisibles du capitalisme de ce pays, et soutenu par des amitiés politiques et familiales, parmi lesquelles Gérard Longuet et Michel Rocard, Bolloré devient la figure du patron modèle et moderne, genre qui fait gagner la France. Une sorte de Bernard Tapie clean, comme le présente Thierry Ardisson dans son émission Bain de minuit sur la toute nouvelle chaîne de télé La 5. Il y a du champagne sur la table, de la musique en fond, bref, on est chez Ardisson dans les années 80.
Vincent Bolloré, le matin, il va à son bureau à 5h, puis après, il va prendre à 8h le petit déjeuner avec ses enfants, et puis il a une compagnie aérienne, mais il n'a pas de chauffeur, tu vas à la messe, en fait, comme ça, plein de qualités, t'es un héros moderne, quoi. Alors, la seule question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as des défauts ?
Ah oui, beaucoup. D'abord, les Bretons sont tous têtus, donc
ouais,
c'est le premier des défauts.
Ça, c'est une qualité dans les affaires.
Mais on peut en trouver d'autres, il suffit d'aller demander aux personnes qui travaillent avec moi, il y en a beaucoup.
Ouais. Donc, ton premier défaut, c'est d'être têtu.
Têtu, sûrement. Deuxième défaut, sûrement trop gentil.
Ouais.
On dirait que c'est pas un défaut, c'est ce que De Gaulle avait dit de Pompidou, mais non, c'est vrai, un peu gentil, c'est-à-dire que je m'occupe beaucoup de ce que font les gens.
Et pour que le plan de com soit parfait, son serviteur Thierry Ardisson, qui a sorti la boîte de cirage, lui lance « Tu es catholique et social, je trouve ça formidable. Tu t'entends bien avec les syndicats, finalement. » Ce à quoi Vincent Bolloré répond « Oui, on a ramé du même côté. Patron, ouvrier, même combat. Tout cela devant des millions de téléspectateurs. » Au cours des années 90, le petit prince du cash flow, parfaitement servi comme on vient de le voir dans ses émissions qui confondent volontairement un faux spectacle, poursuit ses rachats d'entreprises et investit dans le transport maritime. Il fait main basse sur Delmas Vielge avant de prendre le contrôle du groupe Rivo en 96, devenant ainsi un pilier de la France-Afrique. Car il gère des ports surtout. le continent noir et contrôle des milliers d'hectares de plantations de palmiers, de bananiers et d'EVA. Mais en 97, sur les conseils d'Alain Minc, il va tenter une opération osée. S'attaquer à un poids lourd du CAC 40, Bouygues. Lui et ses conseillers ont repéré quelques fragilités dans l'entreprise. Ils déclenchent alors leur opération. Il s'agit de grignoter le capital jusqu'à en détenir 5%. Immédiatement, Bolloré appelle Martin Bouygues, PDG de la société du même nom et ancien camarade de CM1 à l'école Gerson, dans le 16e arrondissement de Paris. La suite, elle est racontée par son ex-associé Jacques Dupuy-Doubi et son biographe Jean Botorel dans le complément d'enquête intitulé « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ». Avec un point d'interrogation, c'est important. Documentaire réalisé en 2016 par Tristan Vallex et Mathieu Régnier et récompensé par le prix Albert Londres en 2017.
Il lui a téléphoné en lui disant « Tu sais, mon cher Martin, c'est bien évidemment une simple prise de participation financière. Je ne veux absolument aucun mal à la famille de Bouygues que j'aime tellement, rappelle-toi, que nous étions à l'école ensemble, etc. 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 »
Oui, ben Martin, je voulais quand même amicalement te prévenir que j'ai 4,9% de ton capital. Et le lendemain matin, comme la déclaration officielle était faite, Martin Bouygues s'est réveillé et il constatait qu'il avait 16-17%.
Vincent Bolloré, qui considère Bouygues comme un plouc, lui a évidemment menti. Et de l'avis de son biographe, il peut être brutal, retors, intolérant. Il peut, dans une négociation, mentir avec une sincérité désarmante. Il peut charmer en vous flinguant, conclut Botorel. Toujours est-il que dans cette attaque contre le groupe Bouygues, Bolloré ne s'intéresse ni à la branche BTP, ni à celle des télécoms, non. Il a une obsession, mettre la main sur TF1, la première télévision d'Europe. Finalement, son raid ne fonctionne pas. Mais en revendant des actions Bouygues, un titre qui monte, il empoche une belle plus-value de 226 millions d'euros et récolte la haine de Martin Bouygues, qui dira en 2003 « Bolloré m'a pris pour un con. Il m'a roulé, trompé, humilié. Je n'oublierai jamais. » Cette attaque laisse des traces. Et l'on ne parle plus du petit prince pour Vincent Bolloré, mais du smiling killer, le tueur au sourire, qui s'attaque à d'autres grandes familles, met tout le monde dans l'embarras, les Dassault, par exemple, amis des deux camps, et un certain Nicolas Sarkozy, avocat de Bouygues à l'époque. En octobre 2002, 5 ans après l'OPA manqué contre le groupe Bouygues et la chaîne TF1, Bolloré tient sa petite revanche. Il obtient de l'État une chaîne de télé sur la toute nouvelle TNT. Dès la phase d'expérimentation, l'homme d'affaires supervise tout lui-même en compagnie du journaliste Philippe Labro. L'objectif est ambitieux. 16 heures de direct par jour depuis la tour Bolloré à Puteaux, un logo, une mascotte baptisée Tui-Tui et un grand oiseau multicolore incarné par un intermittent costumé. Le 31 mars 2005 à 19h, c'est le lancement de cette chaîne baptisée Direct 8. Tout démarre par un plan fixe de Paris. On y voit la tour Eiffel et la tour Montparnasse dans une grisaille polluée. Et en fond sonore, le tube 13 années 80, choisi par Vincent Bolloré himself, et qui sera diffusé à longueur de journée sur la chaîne, le monumental Moonlight Shadow de Michael Field.
We'll be right back.
France Inter, Affaires sensibles.
Bonsoir, bienvenue sur Direct 8.
Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré.
Philippe Labro, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Cela fait 20 ans, en France, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. On a vu fleurir de nombreuses chaînes payantes, mais pas de chaîne gratuite depuis la naissance de la 6. Et on est heureux ce soir d'inaugurer la TNT, qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes.
Voilà, c'est parti pour l'aventure Direct 8. Mes deux courageux journalistes de Libé, Raphaël Garrigos et Isabelle Robert, décident de regarder la chaîne pendant une semaine pour la critiquer en connaissance de cause. Ce qui donne, je cite, « On en a un peu marre de Direct 8 ». Certes, la journaliste qui fait son flash info en récitant le match de foot de la veille sans la moindre image, c'est kitsch. Certes, les caméras qui vacillent, les micros muets, c'est rigolo. Et ça fait du stock pour les enfants de la télé. Mais on songe aussi aux télés associatives écartées de la TNT par manque de financement quand Bolloré fait une télé amateur à coups de millions, écrivent nos confrères. Oui, Direct 8, c'est cheap, un peu cato, une volonté de Bolloré, mais souvent cata, avec des incidents de plateau, et finalement, pas si nouveau, puisqu'on y retrouve des figures vieilles comme le monde, enfin, comme le monde de la télé, Alain Minc, Alain Duhamel, Philippe Labro. Mais en cette année 2005, Vincent Bolloré va faire le show sur une autre scène, celle d'une assemblée générale restée dans les mémoires. Nous sommes le 9 juin 2005, à Paris, Maison de la Chimie. Dans ce centre de congrès, Vincent Bolloré fait un putsch pour prendre le contrôle d'Havas, la grande agence de publicité et de conseil en communication. Il prononce son discours face à un auditoire de petits actionnaires qui lui sont hostiles. Petit aperçu dans le magazine Complément d'enquête.
Je veux simplement poser une question à Monsieur Bolloré.
Pouvez-vous nous assurer aujourd'hui et maintenant que vous n'aurez pas à vous comporter chez Havas comme vous vous êtes comporté chez Bouygues?
Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on dit que c'est moi qui invective.
Et là, Vincent Bolloré s'est levé et pour répondre à la question, a fait une gestuelle qui a consisté à monter sur la scène, qui est assez rare.
Ça n'est pas le loup, ni Dark Vador. Ne vous inquiétez pas.
Merci. Vincent Bolloré dans son exercice favori.
Beaucoup de parler de moi depuis...
Comme 25 ans plus tôt dans les papeteries, seul face à une foule hostile, qu'il faut séduire.
Je vous ai indiqué ce que j'étais, qui j'étais, pourquoi j'étais là. C'est pas la peine d'aller faire des huées, des machins. Vous savez, ça fait 35 ans que je travaille. Ce groupe, je l'ai hissé là où il est.
La méthode Bolloré fonctionne, car il parvient à retourner l'assemblée et obtient les votes nécessaires. En réalité, tout n'est que spectacle. Car en coulisses, il s'est déjà assuré la victoire le matin même en retournant l'un des plus gros actionnaires du groupe. Et sans plus tarder, débute une grande purge au sein de la direction d'Havas. Désormais, notre Citizen Braze contrôle l'agence de pub qui met les publicités sur sa chaîne de télé, Direct 8. Chaîne sur laquelle il annonce la parution de son nouveau journal, Direct Matin, premier quotidien gratuit du soir. Nous sommes maintenant après 2007. L'homme d'affaires profite de son journal pour faire la promotion du nouveau président français, Nicolas Sarkozy, mais également de nombreux dictateurs africains avec qui il est en affaires. Et puis il y vante, à coup d'articles élogieux, dès 2011, l'une de ses grandes fiertés, Autolib, sa flotte de voitures électriques déployée à Paris. Et pour service rendu par les socialistes au pouvoir dans la capitale, il appellera à voter Anne Hidalgo au municipal de 2014. Le descendant de Marin Breton sent le vent politique qui peut le porter. Et question ressources humaines, il garde le même cap. Il recrute chez les anciens grands flics. Ange Mancini, par exemple, camarade de fac de Bolloré et fondateur du RAID. Cet homme, qui se définit lui-même comme un voyou peinard, parle de son recrutement par le milliardaire dans le complément d'enquête toujours intitulé « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien », toujours avec un point d'interrogation.
Depuis très longtemps, il me disait « Écoute, il faudrait qu'un jour tu nous rejoignes dans le groupe, c'est un groupe formidable. On est un camp de gitans, on fait des tas de choses, chacun y amène son talent, ses capacités, ses compétences. » Alors...
Donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans.
C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans. Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans. Hein. Et tout le monde le connaît.
C'est avec ces gitans, ces anciens grands flics, que Bolloré fait donc ses affaires en Afrique. Dans ce même complément d'enquête, on observe dans une séquence un jeune adolescent de 14 ans travailler dans une palmeraie au Cameroun dont le groupe Bolloré est actionnaire. La plupart des travailleurs sont hébergés dans des conditions déplorables. L'un d'eux tient à faire passer un message au milliardaire breton.
Je peux vous dire, j'en vais au Bolloré parce que il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail, les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir. Qu'il voie vraiment ce que ses partenaires nous font.
Vincent Bolloré n'apprécie pas qu'on parle de ses affaires africaines. Il traîne en justice la plupart des journalistes qui ont enquêté sur ce sujet. Où il ne gagne jamais, mais fait perdre du temps et de l'argent avec un seul but, décourager les futures enquêtes. Les salariés du groupe Canal+ vont rapidement s'en rendre compte. Mais avant cela, il faut expliquer comment Bolloré s'est emparé de Vivendi, le groupe qui détient Canal. En 2012, il revend ses deux chaînes, D8 et D17, au groupe Vivendi, mais se fait payer en actions. Il met donc un pied dans la porte et ne cessera de monter au capital jusqu'à la prise de pouvoir en 2014. Le 12 février 2015, dans la matinale de France Inter, il donne sa définition de ce que devrait être l'humour à Canal+.
C'est quoi l'esprit Canal?
C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative, parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais
ils vous font pas toujours rire?
Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
Se moquer des autres, c'est moins bien. Il n'en fallait pas plus aux auteurs des Guignols pour embrayer dès le soir même avec un sketch mettant en scène Vincent Bolloré.
Vous auriez un exemple de dérision acceptable, selon vous?
J'ai vendu D8 il y a 2 ans à Canal+, et grâce à cette vente, je me retrouve à la tête de Canal+, et donc, à nouveau, de D8. C'est savoureux, non?
C'est de la dérision, ça?
En tout cas, moi, ça me fait bien marrer. Ça veut dire que même si je vends quelque chose, au final, ça m'appartient encore. Bah, pourquoi vous riez?
Parce que vous riez, patron.
Vous commencez à comprendre la dérision acceptable.
Ah, il est vraiment malin, le patron. Hein. C'est pas pour rien qu'il a un yacht. Hein.
Été 2015, les salariés de Canal+ commencent à avoir peur de Vincent Bolloré. La rumeur parle d'une suppression des Guignols de l'info. Les journalistes Nicolas Vescovacci, Jean-Pierre Rianet et Geoffroy Livolsi ont la surprise de voir leur documentaire « Évasion fiscale, une affaire française » censuré par la direction de Canal+. L'enquête sur le Crédit Mutuel ne plaît pas à Vincent Bolloré qui est proche du patron de cette banque, Michel Lucas. Et ce n'est qu'un avant-goût de Citizen Bolloré. Car après la censure, les purges Canal+ prend des allures de Canal-. Le 3 septembre 2015, comité d'entreprise de Canal. Le PDG débarque, le patron Bertrand Meheux s'explique. La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Bolloré commence son show. Oh là là, vous avez l'air sérieux, mais je vais être tout doux. J'espère que vous avez pu passer quand même un bon été et que vous n'avez pas eu trop peur des purges possibles. Il annonce alors au cadre de Canal que c'est lui qui prend les commandes, désormais. Et il déroule sa légende. La famille de Hardy, marin breton, alors que, rappelons-le, il a grandi au sec, dans la très haute bourgeoisie parisienne. Il rappelle sa réussite avec la reprise du groupe familial pour 2 francs symboliques, qui vaut maintenant 15 milliards d'euros. Tout cela pour justifier sa méthode. Pour résumer, en une matinée, il vire le patron et 30 cadres dirigeants de la chaîne. Un salarié enregistre son discours. Tous les extraits sont disponibles sur le site Les Jours, au sein de la très longue enquête des journalistes Raphaël Garrigos et Isabelle Robert. En voici un extrait.
Vous avez dit la dernière fois un mot sur les Guignols. Je pense que les Guignols, au-delà de la partie rigolote de l'été où je tue les Guignols comme on a tué les pauvres journalistes de Charlie, je pense que les Guignols méritent au contraire un autre avenir. Ils méritent d'être internationalisés. Ils méritent d'avoir M. Tsipras, la cigale, Mme Merkel, la fourmi, les Français malins. Il ne faut pas essayer de faire des choses qui ne sont vues que par 2 millions de Français. Il faut essayer de faire des choses qui sont vues par 50 millions de personnes. Et ça, c'est pas très compliqué.
On sait aujourd'hui ce qu'il est advenu des Guignols, enterré. Chez ITL, après la plus longue grève de la télé depuis 68, la majorité des journalistes sont partis. La chaîne est devenue CNews, une Fox News à la française, avec Éric Zemmour et Pascal Praud comme tête d'affiche, au service des idées les plus à droite possibles. En tout cas, l'investigation a été censurée. À l'image de Sébastien Thoen viré après un sketch, tout comme Stéphane Guy coupable de l'avoir soutenu. Depuis, Bolloré applique les mêmes méthodes chez Europe 1, à Paris Match et au JDD. Et bientôt au Figaro, où s'arrêtera son appétit médiatique. Sur son portable, il a installé une application qui lui rappelle le jour où il cédera son empire à ses enfants, le 17 février prochain. Mais il a sûrement une autre date en tête, le 24 avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, un œil rivé sur le score de son protégé Éric Zemmour.
Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle.
C'est le côté obscur de la force.
Sombre monarque débarque et étale son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion du bas-fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule dans rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, ta force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Ta force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. Ta nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part. Rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin, Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi. Le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les empoiles. Fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque souffle rock sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr.
I am sur France Inter, l'empire du côté obscur, et nous parlons d'un empire justement précisément aujourd'hui, celui de Monsieur Bolloré. Nous en parlons avec notre invité Ariane Chemin, bonjour. grand reporter au Monde, évidemment, je dis évidemment parce que vous avez publié tellement de livres qu'on vous connaît, et vous avez publié une longue enquête sur l'homme d'affaires avec votre consoeur, qui est compagnon.
Et ami.
Et ami, bah oui, c'est ça, votre compagnon de toujours, professionnel, Raphaël Baquet, qu'on salue au passage. Alors, Bolloré s'est trouvé un nouveau champion en, politique, Zemmour, on en reparlera. En revanche, avec Emmanuel Macron, ça l'a pas matché. Qu'est-ce qui s'est passé?
Avec Emmanuel Macron, ça a pourtant bien commencé. Emmanuel Macron est venu visiter l'usine bretonne au début de son quinquennat. Emmanuel Macron, c'est bien sûr que l'homme politique de la vie de Vincent Bolloré, c'est évidemment Nicolas Sarkozy. Vous avez très bien fait de raconter cette nuit extraordinaire au Fouquet's où, au fond, le pauvre Nicolas Sarkozy n'a pas tellement envie d'accepter ce cadeau empoisonné du yacht, mais il le fait effectivement pour tenter de retenir sa femme, qui ne restera finalement pas Cécilia Sarkozy. Mais c'est vrai que c'est l'homme politique qui compte, c'est Nicolas Sarkozy. Et puis, il se passe un déjeuner qui tourne mal juste avant l'été 2021, donc c'est très très récent, où Vincent Bolloré a demandé rendez-vous avec à Emmanuel Macron. Il rentre par ce qu'on appelle la grille du coq.
Oui, vous savez, cette petite, derrière, oui,
derrière l'Élysée, pour pas qu'on vous voie, pour pas que les journalistes vous repèrent.
Bah oui.
Et le déjeuner tourne court parce qu'en fait, Vincent Bolloré est rentré dans une spirale peut-être un peu complotiste où il est persuadé que Emmanuel Macron lui en veut, que s'il n'a pas pu racheter M6, eh bien c'est à cause de lui, que au fond, il est capable même, ce qui est évidemment complètement faux, je pense, de corrompre la justice au point que lorsqu'il est mis en cause, Vincent Bolloré, dans une affaire de corruption au Togo, et qu'il plaide coupable, eh bien la justice refuse de se plaider coupable. Et il voit la main d'Emmanuel Macron partout, et Emmanuel Macron lui répond, mais enfin, écoutez, vous êtes en train de tout racheter, que me racontez-vous? Et il se quitte en très mauvais termes.
Sarkozy, toujours ami avec lui?
Oui, toujours, bien sûr. Mmh. C'est quelqu'un qui restait très proche. Alors, il faut faire attention à ne pas magnifier le rôle que pourrait avoir Nicolas Sarkozy dans la politique que mène Vincent Bolloré, parce que c'est, bon, après tout, c'est quand même aussi un ex-président, mais il reste très présent.
On dit que, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, Bolloré, vous non plus je crois.
Non, il n'a pas voulu nous rencontrer.
Bon, on dit qu'il a, il a de l'humour.
Bien
parmi
sûr.
Parmi ses qualités, notamment celle-là.
Mais il a beaucoup d'humour, il a le sens de la formule, on voit bien qu'il aime monter sur les estrades, il l'a fait devant la CGT dans les années 80, et puis il le fait à nouveau devant les salariés de chaînes de télévision. Il adore ça, c'est un battleur, il a beaucoup de présence, beaucoup d'esprit, mais il est aussi très cruel en affaires. Le meilleur exemple, c'est quand même que son mentor et tuteur, le père du capitalisme français, Antoine Bernheim, avant de mourir, a dit qu'il n'avait jamais connu pareil traître que Vincent Bolloré.
Ah ouais, quand même.
Quand même.
Alors c'était l'inspirateur.
Exactement.
En chef. Je reviens sur Nicolas Sarkozy, j'y repense maintenant, parce que vous avez écrit un livre sur cette fameuse soirée, cette fameuse nuit, donc vous savez très très bien. Pour Sarkozy, c'était quand même dur, parce que ça aurait dû être le plus grand jour de sa vie, élu président de la République, vous vous rendez compte. Mais le contexte personnel, est-ce que ça lui a totalement gâché la soirée?
En fait, il choisit le Fouquet's pour faire plaisir à Cécilia Sarkozy. Il choisit le yacht de Bolloré pour faire plaisir à Nicolas Sarkozy. Il avait même été question, en fait, qu'il parte seul faire une retraite quelques jours après la victoire.
Oui, vous voyez,
comme on est loin du yacht de Vincent Bolloré. En fait, il fait des mauvais choix parce qu'il est amoureux de sa femme. Et c'est vrai que c'est une soirée pas banale puisqu'il privatise d'une certaine manière cette soirée présidentielle, ce qui s'est jamais fait sous la Ve République. Et c'est, personne ne comprend à ce moment-là que si toute la foule attend Nicolas Sarkozy, place de la Concorde, c'est que la foule attend un homme qui attend sa femme qui ne vient pas.
Et le Fouquet's, il va traîner ça pendant 5 ans. Hein.
C'est incroyable, jusqu'à
la prochaine élection où il chute, pas à cause de ça, mais ça fait partie.
C'est vrai que c'est le moment où a été inventé le mot bling bling, on s'en souvient pas, c'est un mot de rappeur à l'origine. Hein. Mm-hmm. C'est inventé à l'occasion. Et cette soirée, en fait, les invités, on retournera toujours vers eux, en tout cas la presse, y compris 5 années après. Et on s'aperçoit que, par exemple, la liste des décorations pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy ressemble beaucoup à la liste des invités du Fouquet's.
Les rapports de Vincent Bolloré avec François Hollande maintenant.
François Hollande, il a été assez vif récemment. C'est peut-être le seul homme politique qui a mis des mots sur ce qui est en train de se passer. Il a dit, mais voilà, il est en train de s'adjoindre à un groupe de presse pour des visées politiques. Hein. Et c'est le seul qui a dit ça. Il a même comparé ce que pouvait faire Vincent Bolloré en France à ce qu'a fait Berlusconi en Italie, en disant, mais écoutez, il ne faut pas être dupe. Hein. Il peut toujours dire, écoutez, je ne suis pas Zemmour, mais quand on installe quelqu'un tous les soirs, parce que c'est lui, hein, Vincent Bolloré, qui a demandé en privé à Zemmour de venir tenir l'antenne tous les soirs à 19h sur CNews, eh bien, quand on installe un homme comme ça, peu importe qu'on choisisse ou non d'en faire le champion de la présidentielle, je ne pense pas que Vincent Bolloré pense à ce moment-là qu'Éric Zemmour peut gagner la présidentielle, mais en tout cas, il tient à ce que les idées d'Éric Zemmour diffuse, il veut zémouriser la campagne, ça c'est évident. Et puis surtout, je pense qu'il s'amuse beaucoup à mettre un peu le foutoir dans cette campagne présidentielle.
Donc il le soutient maintenant, Zemmour qui est maintenant candidat, mais comment le soutient-il? C'est discret, hein?
Bah écoutez, il n'est plus à l'antenne parce que le CSA a décidé
donc c'est un peu
que,
plus discret, mais...
voilà, c'est plus discret. Il a mis à la place d'Éric Zemmour un autre journaliste canadien qui s'appelle Mathieu Bock-Côté. Je crois que Bolloré l'apprécie aussi beaucoup. Mais sa chaîne, il suffit de la regarder assez longtemps. Il faudrait faire exactement ce qu'ont fait les Gary Betts que vous avez cité. C'est-à-dire passer une... Il suffit de passer une semaine devant CNews pour voir que c'est évidemment une chaîne d'opinion.
D'ailleurs, chez Pascal Praud, de 20h à 21h, je crois, on insulte copieusement le service public, France Inter d'ailleurs, au passage, mais bon...
Le matin et le soir.
Enfin, voilà, écoutez, c'est comme ça. Alors, quand même, Vincent Bolloré a fait copain-copain avec Anne Hidalgo pendant les élections municipales de 2014, donc... Il peut aussi avoir des accointances avec des personnes de gauche.
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne l'a vu venir, Vincent Bolloré. C'est un vrai homme de droite, hein, qui est assez réactionnaire. Il s'est toujours entouré, c'est ce qu'on a voulu montrer avec Raphaël Baquet, de personnalités qui viennent de la droite dure ou de l'extrême droite. Vous l'avez dit, fréquenté tout le monde de Madelin, et puis il a des amis qui sont des autonomistes bretons qui sont pas...
spécialement de gauche.
Spécialement de gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, il a fait illusion, parce que effectivement, il est très ami avec Bernard Poignant, député de Quimper. Sans doute que la fibre bretonne joue beaucoup. Mmh. Et donc, on a cru qu'il était un peu apolitique. Et il a toujours dit d'ailleurs qu'il s'en foutait complètement. Or, ce dont on s'aperçoit durant cette campagne, c'est que d'abord, c'est quelqu'un qui a transformé son catholicisme un peu, je dirais, un peu mou, en espèce de catholicisme identitaire. Et d'une certaine manière, c'est comme si son identitarisme breton était devenu un identitarisme français. Hein. Cet homme qui allait à la messe et aux enterrements, etc., est devenu un catholique fervent, qui ne rate pas un office le dimanche, qui essaye de racheter, il le dit un peu en riant, mais pas forcément en riant, son salut en se confessant régulièrement.
Décidément, il rachète tout, voilà. Y compris son salut.
Et c'est intéressant, d'ailleurs, on voit très bien que dans la première chaîne de télévision qu'il a créée, vous dites un peu catholique, effectivement, il y a pensé tout de suite. Et sur CNews, on a tous les dimanches un homme qui officie, qui s'appelle Éric Pourbet, qui l'a confié aussi à un vieux journal qui s'appelle France Catholique, qui est peut-être le seul titre catholique de la presse française qui n'a pas voulu parler du rapport sur de la fameuse SIAZ, sur la pédophilie dans l'Église.
Dans l'Église, ouais.
Son éditorialiste, qui est le patron de CNews, de cette chaîne, disait, écoutez, quand tous les journaux en parlent comme ça, je suis pas complotiste, mais j'ai quand même tendance à penser que c'est très étrange. Enfin, c'est des propos qu'on n'a pas tellement entendus ailleurs. Et pour lui, ces émissions religieuses, c'est très important.
Vous aimez le disco? Ça n'a rien à voir. Vous avez aimé le disco, vous? Non?
Oui.
Bon, parce que...
Sans mes années.
On va écouter Juliette Armanet qui nous chante Le dernier jour du disco.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire. C'est la fin.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Ariane Chemin, continuons notre conversation et notre tour d'horizon des rapports de Vincent Bolloré avec le paysage politique français à droite, hein, essentiellement. Alors justement, à droite, chez les Républicains, comment ça se passe? Quels sont les rapports?
Vincent Bolloré, c'est un grand capitaine d'industrie qui a beaucoup fait pour l'emploi en France, que connaissent donc évidemment tous les responsables des Républicains. Celle qui le connaît le mieux peut-être, c'est intéressant, c'est celle qui vient d'être investie par les Républicains pour être candidate à l'élection présidentielle, c'est Valérie Pécresse, puisque son père, Dominique Roux, en 2007, avait été nommé patron de Bolloré Télécom. Ça, peu de gens le savent. Donc, évidemment qu'il connaît très bien tous les responsables des Républicains, tous les hommes de droite qui comptent. Et son souhait, évidemment, d'ailleurs, il en a rencontré beaucoup pendant la campagne. Et à chaque fois, ce qu'il répétait, c'est... il ne le dit pas comme ça, mais mettez-moi un peu de Zemmour dans votre programme.
Du remplacement. Grand remplacement, par exemple.
Par exemple.
Alors, ça nous renvoie quand même à une idée qu'on peut débattre, hein. On peut vraiment débattre en ce moment. Il y a ceux qui disent, notamment parmi nos confrères et nos consoeurs, mieux vaut qu'un titre de presse ou une télé ou une radio survive dans les bras du CAC 40 plutôt qu'elle meure. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est la question, c'est une question délicate, y compris pour les journalistes qui travaillent dans ces chaînes, titres, etc. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est l'exemple d'Europe 1, puisque lors du grand match avec LVMH, pour se partager l'empire Lagardère, Bolloré a remporté
Europe 1.
Europe 1. Et on voit que il a mis en place des équipes, hein. Très vite d'ailleurs, ça s'est fait en quelques jours à la rentrée de septembre, il a balayé des chroniqueurs, il a remplacé les journalistes, et on a vu...
Il y a des journalistes qui sont partis aussi.
Il y a des journalistes qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont été embauchés directement par Vincent Bolloré, parce que je peux vous dire qu'aucune embauche ne se fait sans son accord. Même si c'est pas lui qui traite directement, c'est impossible de penser que Vincent Bolloré embauche quelqu'un dans son groupe, et notamment dans les médias, sans être immédiatement à l'origine de la chose, ou au courant, tout au moins, et sans qu'il ait donné son aval. Eh bien, les chiffres d'audience d'Europe 1, lors des derniers résultats d'enquête Médiamétrie, montrent que Europe 1 s'est effondré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être qu'il va tout changer, à nouveau, comme il a pu le faire pour iTélé, on ne sait pas.
Oui, sauf que parfois, quand un média va mal, on va chercher les causes beaucoup plus loin.
Mais en tout cas, les premiers résultats ne sont pas très encourageants.
Certes. Alors, où s'arrêtera la petite Bolloré pour les médias? Le Figaro?
Le Figaro, dire que Vincent Bolloré ne s'intéresse pas au Figaro, ce serait un mensonge.
Ouais.
Ce serait fermer les yeux. Ce qui est intéressant, c'est que le Figaro a donné l'impression de donner quelques gages. Par exemple, quand le Figaro Magazine fait sa une avec le livre écrit par le frère de Vincent Bolloré, hein. Michel Lib, vous en avez parlé, avec qui il est resté très longtemps brouillé. Il lui consacre sa cover. C'est pas complètement anecdotique, hein. Ça c'est sûr, beaucoup de journalistes travaillent sur CNews, hein, écrivent dans le Figaro et travaillent sur CNews, ça c'était évident. Que Vincent Bolloré s'intéresse depuis quelques années à CNews, c'est pas seulement une hypothèse, c'est vrai, ça nous a été raconté. Maintenant, évidemment, rien ne se fera avant la présidentielle, et puis souvent il suffit, comme vous le savez, de parler des appétits pour que les affaires, les tops là ne se réalisent pas, mais évidemment qu'il a un œil sur le Figaro.
Dans la mesure où un Fox News existe aux États-Unis, bon, la France est un pays moderne, dans le même camp que les États-Unis. À la limite, c'est pas étonnant qu'on ait une sorte de Fox News. C'est dans le sens de l'histoire, finalement. Même si on peut ne pas s'en satisfaire, c'est dans le sens de l'histoire.
Bah oui, parce que le populisme gagne dans tous les pays depuis maintenant une petite décennie. Mmh. Et donc effectivement, cette chaîne, elle correspond à d'autres modèles, même s'il s'en est pas directement inspiré. Évidemment qu'on peut voir des convergences entre Fox News et CNews en France.
On va écouter ensemble un extrait du documentaire de Reporters sans frontières intitulé Le système B, consacré au système Bolloré. C'est le journaliste Jean-Baptiste Rivoire qui parle, lui-même victime des purges du milliardaire quand il était au service investigation de Canal+.
Je pense que Vincent Bolloré assume totalement d'instrumentaliser l'information. Et comme les politiques ne font pas appliquer les lois, en l'occurrence la loi Bloche, qui en principe interdit à un actionnaire d'entraver la liberté éditoriale pour protéger ses intérêts de businessman, et à force de laisser faire, les politiques ont laissé ces industriels mettre la main sur 95% des médias privés français, au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait aller briguer le suffrage des électeurs en France aurait beaucoup de mal à se passer de ces médias privés et donc est obligé de montrer patte blanche. Donc la démocratie est dévoyée gravement parce que les politiques n'ont pas juste imposé une autorité publique qui défend l'intérêt général.
Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que Vincent Bolloré s'en fiche complètement. Les journalistes peuvent crier, hurler, faire des documentaires. Il se bat avec eux, effectivement, via des avocats. Mmh. Hein, on l'a vu avec le documentaire de Tristan Vallet, qui a finalement remporté d'ailleurs la bataille juridique. Mais il s'en fiche. Je crois vraiment qu'il déteste la presse. Et qu'il n'en a rien à faire de toutes les critiques qu'on peut lui porter.
Il déteste la presse, il est à la tête d'un groupe de presse. Bon, mais sa presse à lui, quoi.
Il en veut beaucoup à la presse quand il a commencé à avoir des premiers enduits judiciaires de l'avoir maltraité. Et c'est comme s'il avait une revanche à prendre. Vincent Bolloré est un homme de revanche. Je vous cite cet exemple qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Quand il était petit, il habitait dans le 16e arrondissement et sa maison de vacances, c'était une vaste villa sur le plateau de Vaucresson dans les Hauts-de-Seine, qui a été ensuite rachetée par Marcel Dassault. Eh bien, il s'est fait un point d'honneur de racheter lui-même cette villa qui a été ensuite le siège d'Autolib parce que c'était des souvenirs d'enfance et puis parce qu'il avait l'impression qu'on lui avait arraché.
Alors, puisqu'on parle de famille, donc la succession doit intervenir le 17 février prochain. On sait ce qu'il a prévu pour après 200 ans de création de l'entreprise familiale.
Qu'est-ce qu'il prévu ? Ça participe à la légende, hein, cette date anniversaire ou un grand fest-noz.
Désolé de nourrir la légende.
Non, pas du tout, parce que peut-être que justement il va faire mentir la légende. Ouais. C'est-à-dire qu'un grand fest-noz est prévu en Bretagne, à l'endroit où se tient l'usine historique de papeterie de la famille Bolloré, mais il a suffisamment répété qu'il a laissé passer la main à ses enfants. D'ailleurs, Raphaël Baquet a écrit cet été une série qui s'appelait Succession, où elle racontait très bien l'histoire de cette future succession, et c'est des ambitions des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir Vincent Bolloré s'éloigner complètement des affaires. Alors peut-être que justement, c'est peut-être le désir d'un homme qui arrive aux 70 ans, qui a pas envie de s'ennuyer. Peut-être que ce jouet, ça peut être justement les médias. Peut-être qu'il va continuer à s'en occuper de loin.
Allez, on verra. L'avenir très proche nous le dira. Merci infiniment, Ariane Chemin. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'Empire Bolloré, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Jenab Sangaré.